Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou par le canal Le 52 Radio et cette télévision partenaire dans tout le Niger. Azender, vous écoutez cette émission sur les ondes des radios Gaskia et Choukoura. Gaskia 89.5 MHz et Choukoura 105.5 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème l'impact lié à la hausse du prix des hydrocarbures dans la région de Zender. Lors de son discours d'investiture le lundi 29 mai, le nouveau président nigérien Bola Ahmed Tinubu a déclaré que les subventions à l'achat du carburant seront supprimées au Nigeria, invoquant des considérations budgétaires. Cette décision a été suivie d'une forte augmentation du prix du carburant aussi bien au Nigeria qu'au Niger, où une grande partie de la population se ravitaille avec le carburant fraudé. À Zender, le prix du litre est passé du simple au double. Donc de 275 avant cette mesure à 550 francs actuellement chez les vendeurs ambulants, une situation qui n'est pas sans conséquence dans la vie du consommateur et du citoyen ordinaire. Certains prix du transport ont commencé déjà à connaître une hausse. Quel est l'impact immédiat de cette mesure à Zender? Cette mesure peut-elle aider l'État à mettre fin à la fraude des hydrocarbures? Quelle solution face à la cherté de la vie? Pour discuter, nous recevons Dr Abdelwahab Soumana, socio-anthropologue, enseignant, chercheur à l'université André Salufou de Zender, M. Baba Danyaro, président du syndicat des transporteurs Adalti de Zender, et Sadat Iliad Amalam, acteur de la société civile, défenseur du droit des consommateurs. La vente des hydrocarbures fraudés est un phénomène répandu dans les régions frontalières du Nigeria, particulièrement la bande sud du Niger. Mais depuis l'annonce de la suppression de la subvention sur les hydrocarbures du nouveau président nigérien, la marge bénéficiaire des opérateurs du secteur de la fraude se trouve sérieusement réduite si elle n'est pas totalement anéantie. Monsieur Sadat, nous commençons par vous. Le président nigérien a justifié la décision par le fait que la subvention profite beaucoup à certains pays voisins qu'il a cités, dont le Niger. Est-ce qu'elle ne porte pas entorse aux droits des personnes à faible revenu au Nigeria?
Il faut rappeler que cette subvention a pris naissance dans les années 70 avec le choc pétrolier de 1973. Donc le Nigeria a instauré cette subvention-là pour pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, l'inflation. Et malheureusement, cette subvention a toujours constitué un problème pour le gouvernement du Nigeria, notamment par rapport à son budget, par rapport à son économie. Selon donc les évaluations budgétaires au Nigeria, ils ont compris que cette subvention provoque beaucoup de pertes et ça entraîne un recours à l'endettement pour le Nigeria. Donc ce qui a amené les différents gouvernements, puisque ça n'a pas commencé avec Tinubu. Déjà, Buhari avait tenté d'arrêter cette subvention, mais ça n'a pas marché face à la grogne sociale. Donc effectivement, cette subvention peut avoir beaucoup d'impacts sur les Nigériens de façon générale, parce que comme vous le savez, les produits pétroliers sont très, très utilisés par les citoyens au Nigeria avec le problème d'électricité. Pratiquement toutes les activités sont faites par les énergies pétrolières. Ça a même entraîné la hausse des prix des produits parce que ça a eu des impacts sur les transports et ça a aussi impacté les coûts de la production. Donc, ce qui entraîne des coûts, une hausse des prix qui est sensible jusqu'ici même au Niger. Donc vraiment, c'est une situation qui est de nature à aggraver la situation de la chérité de la vie qu'on connaît actuellement.
Alors, est-ce que le gouvernement nigérien a prévu des mesures amortissant son impact social?
Oui, je crois qu'ils sont en train de discuter avec les différents partenaires, notamment les distributeurs et les syndicats. Ils sont en train de voir, je crois qu'il y a même le forum de Conseil économique et social qui est dirigé par le vice-président, qui est en train de se réunir, qui est en train de rencontrer les différentes couches qui sont concernées par ce phénomène. Donc, ils sont en train de négocier, mais on attend de voir quelles seront les mesures qui seront préconisées pour faire face à cette situation. Mais ce qui est sûr, cette situation est en train de provoquer une hausse des prix des transports, une hausse des prix des produits et une grogne social.
Docteur Abdelwahab, le taxi-moto et la vente des hydrocarbures sont incontestablement les activités les plus embrassées par les jeunes. Quel coup pensez-vous que cette décision va porter sur la vie des jeunes?
Alors, les taxis moto, ce n'est pas seulement les taxis moto, ça soit les taxis moto et en dehors des gros porteurs, du taxi moto jusqu'à certaines grosses cylindrées qui vont jusqu'à certaines 4x4, comme on l'appelle communément, se ravitaillent avec cette essence du marché noir. Donc là, ce n'est pas seulement les taxis moto, mais pour les taxis moto, parce que on sait très bien que la jeunesse de Zinder, ça fait au minimum une trentaine d'années qu'elle s'est réellement investie dans ses activités de Cabo Cabo et auxquelles s'est ajoutée maintenant la pratique du transport avec les ADD de Tsafou. Et également s'est ajouté dernièrement les El Kurkura. Tout ce beau monde-là trouve leur pain à partir de ces activités. Et c'est des activités qui sont impossibles sans ces hydrocarbures. Vous vous rappelez, mais avant la création de Soraz, il y avait combien de stations à Zinder? Pour combien de motos? Et avec la création de la Soraz, les gens ont créé rapidement les stations, pensant que bon, en fait, tout de suite ça va couler comme de l'eau. Après, les gens se sont désillusionnés. Et finalement, l'activité de essence roi-roi a continué. Mm-hmm. Alors, si aujourd'hui il y a la suppression de la suspension de la subvention, vous l'avez bel et bien vu, d'abord ça ralentit la circulation à Zinder. Mm-hmm. Ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, ça crée un désordre dans les familles parce que il y en a qui vivent au jour le jour avec cette activité. Mm-hmm. C'est vrai, il y en a qui gagnent des millions. Nous avons fait des recherches sur cette question-là jusqu'à produire une thèse de doctorat avec un de nos chercheurs. Et donc, ça veut dire que si c'est suspendu ou si c'est désordonné, ça veut dire que les familles vont prendre un coup. En dehors de ça, les entrées et les sorties dans la ville de Zinder en termes de circulation, parce que même les véhicules aujourd'hui qui prennent l'essence à la station ne sont pas nombreux. Donc là également, ça donne un coup. En dehors de ça, ça crée de la frustration. Beaucoup de conducteurs de ADD, de conducteurs de Cabo Cabo aujourd'hui, ils sont couchés, pas parce qu'ils veulent se reposer, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et ça crée de la frustration à leur niveau, au sein des familles. Et donc, ça va créer des déchirures familiales. Parce que ça peut amener des situations où on ne peut plus prendre sa famille en charge. Parce qu'il faut le dire, la jeunesse zindéroise s'est accrochée à cette activité. Et surtout à cette activité, on dirait que je ne veux pas dire que c'est la seule activité, mais c'est l'activité la plus prometteuse pour cette jeunesse jusque-là. Et si c'est suspendu, vous voyez ce que ça donne. Mmh. Et ça crée également un désordre au sein des familles des consommateurs de ces ADD de Tsofu et de ces Cabo Cabo. C'est-à-dire ceux-là même, c'est-à-dire nous qui devons nous déplacer à bord de ces ADD de Tsofu, à bord de ces Cabo Cabo. Aujourd'hui, ça crée des frustrations. Mmh. Vu les transactions sociales, les baptêmes, les mariages, les décès, les fouillandis, je ne sais pas, les adachés, qui font bouger les femmes, les jeunes. Aujourd'hui, ces choses-là sont au ralenti ici à Zinder. Ouais. Donc, ça crée vraiment un véritable chaos social au niveau de la ville de Zinder. Et j'imagine aussi que la répercussion sera grande dans les villes et villages environnants de Zinder. Parce que on quitte Zinder, c'est la ville centrale de la contrée. Et là, aujourd'hui, il faut voir, les gens ne quittent plus. Les gens ne quittent plus. Tu es obligé de avant de payer 550. Hier, moi, j'ai payé un litre à 600 francs ici. Avant de payer 600, mais tu vas mettre un crédit de 100 francs. Tu leur dis, voilà, ce qui ne va pas. Je ne vais pas, je ne peux pas bouger. C'est des condoléances, c'est des baptêmes, c'est des trucs. Donc là, ça vraiment, si vous voulez, l'ordre social dans son ensemble prend un coup avec cette suspension de la subvention qui a été essayée par plusieurs gouvernements. C'est depuis Obasanjo, hein. Mais tous, comme l'a dit Sadat, sous la contrainte de la grogne sociale, tous ont lâché, mais Tinubu est allé jusqu'au bout. Maintenant, on va voir, parce que c'est allé jusqu'au bout, mais c'est une loi humaine, hein. On va voir la résistance.
C'est ça.
Monsieur Babaï est président du syndicat des transporteurs à Adelchi. Est-ce qu'on peut s'attendre au changement du prix de transport ici à Zinder ou au Niger de manière générale?
Nous ici, dans nos différentes régions, je vais dire le département de la région de Tawa, Maradi, Zinder et Difa, la majorité nous consommons du carburant du marché noir. Mais le prix que nous sommes en train, que nous transportons les gens avec le prix, c'est un prix que nous, c'est nous qui le faisons. L'État a fait son prix parce que la majorité de compagnies, là, à 100%, ils prennent du carburant de la station. Le tarif ne peut pas être en hausse. Mais nous, qui font le transport traditionnel, ça, nous serons obligés, si ce prix-là est maintenu, d'augmenter le prix. Et d'ailleurs, maintenant, si vous prenez Zinder-Kano, c'est augmenté déjà. Parce que maintenant, si vous quittez Zinder, il y a seulement, dans la ville de Zinder, qu'il y a des stations qui peuvent vraiment fournir du carburant aux transporteurs. Si vous sortez de la ville de Zinder, à Magaria, comme à Matame, comme à Tano, comme à Gouré, il n'y a pas de station. Mais même si la station, ils ne prennent pas du carburant qui va leur permettre vraiment, pour vraiment donner aux gens, pour que chacun des transports puisse avoir du carburant. Maintenant, si vous quittez Zinder, vous allez, présentement, à Magaria, vous allez payer le carburant à 700 francs le litre. 700 francs le litre. À Magaria, c'est à côté du Nigeria. Si à Gouré, c'est la même chose. À Tano, c'est pire. Parce que si vous prenez maintenant, les compagnies prennent, par exemple, si vous prenez Zinder, Tanout, ils prennent ça à 27 francs, 80 francs de kilomètre par personne. Nous, nous prenons à 13 francs. 13 francs. 13 francs. Et ce qui fait que, si vous nous, on fait la comparaison, et les gens, ils ont l'habitude de prendre du carburant de la station. Nous, nous prenons du marché noir. Compte tenu de la situation qui vit les Nigériens, parce qu'ils ne sont pauvres. Nous avons un peuple taux d'économie, déjà. Ce qui fait que les gens qui empruntent les tricycles, ou qui empruntent les capcoms, c'est parce qu'ils n'ont pas le moyen vraiment d'acheter un véhicule bien de près. C'est ça qui fait que si aujourd'hui le prix du carburant reste comme tel, donc vraiment nous serons dans la difficulté. Il y a beaucoup de familles, pas même les véhicules électriques, pas même la famille électrique. Même nous qui pensons que nous faisons le transport, on ne peut pas vraiment prendre notre famille en chambre comme ça se doit. Parce que si aujourd'hui vous prenez la personne, un passager à 13,3% du kilomètre, vous allez prendre 2000 francs en internet. Les gens là, comme dit le docteur, les gens ne vont pas aller pour ce voyage, sauf le commerçant. Donc, c'est obligé à s'exercer. Pour celui qui va au baptême, au mariage, au décès, il met son crédit sans frais et téléphone. C'est ça.
Alors, monsieur le président, quelles sont les conséquences de la mesure à court et moyen terme?
Déjà, le conseil en termes, on a commencé à le voir ça. Déjà, se voit parce que la hausse du prix, même si vous voyez, même les prix de maïs, le prix, tout ça là, c'est augmenté. Parce que le maïs est monté de 24 000 francs à 28 000 francs. Maintenant, le prix d'hier. Et soyez, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que le carburant, la hausse du prix du carburant, pour transporter, il faut augmenter le prix. Le commerçant sera obligé d'augmenter le prix. Et ça va toucher directement la population. Ça, c'est automatique. Et par rapport à long terme, ça, c'est autre chose encore. Parce que dans ce pays, il n'y a pas de c'est même pas comment qualifier, là où les gens partent pour travailler, avoir au moins les petits besoins. Les gens se débrouillent parce qu'une majorité des gens, des Nigériens, des endroits se débrouillent.
Je vous propose de suivre les avis des vendeurs et des consommateurs sur la flambée des prix.
L'intervenant en Haoussa est un conducteur de tricycle. Il dit en substance qu'ils gagnent moins qu'avant. Ils ont augmenté les prix, mais les femmes qui constituent la majorité de leurs clients n'acceptent pas pour certaines l'augmentation des prix. Néanmoins, ils acceptent de les prendre pour ne pas rouler à perte. On dit aussi qu'en principe, le problème dans notre pays ne doit pas faire autant de répercussions dans notre pays. Il dit enfin que les vendeurs de carburant leur vendent le litre entre 525 et 550 contre 250 à 275 avant la mesure.
C'est vraiment un calvaire et un casse-pied, un casse-tête pour vraiment toute la communauté. Vu qu'on savait qu'il y a à peine 2 semaines de cela, les carburants coûtaient, le litre coûtait à peine 250, 275 francs. Aujourd'hui, il ne coûte plus de 500 francs. Et on sait que les bourses et le revenu des paisibles citoyens n'ont pas connu de hausse sensible. D'ailleurs, ils n'ont jamais connu de hausse. Et du coup, ça met vraiment les bourses moyennes dans une situation intenable et insoutenable. Et cela va favoriser du coup un certain nombre donc de ralentissements des activités socio-économiques qui va impacter sur tout ce que nous avons comme tissu économique, sur tout ce que nous avons. Aujourd'hui, vous allez voir que même la participation aux cérémonies sociales, les gens sont en train de réfléchir à une fois avant de sortir. Vous allez voir que les rues sont pratiquement désertes parce qu'il leur manque le moyen de pouvoir supporter ces prix-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, cela aussi démontre pour combien nous sommes dépendants de notre grand voisin. Au lieu d'attendre que les syndicats nigériens se battent pour que le gouvernement nigérian baisse le prix du carburant à la pompe, c'est à nous de faire aussi le combat. Nous avons notre propre carburant, il est important, il est vraiment, c'est le moment d'y penser pour qu'aujourd'hui aussi le gouvernement nigérien soit sensible à cette question et qu'il baisse de manière très drastique le prix du carburant à la pompe, afin d'abord qu'on puisse réduire la fraude, mais également qu'ils puissent vraiment appuyer la société, la population dans cette période hautement de vie chère et de soudure, comme on l'a dit.
Voilà, vous venez de suivre certains citoyens de Zender par rapport à cette hausse de prix des hydrocarbures. Quelle réaction ça vous suscite? On va faire un tour de table. Monsieur le Président, on commence par vous.
Pour moi, ce que l'intervenant vient de dire, c'est il a répété ce que nous avons dit tous. Parce qu'il a répété comme il nous a écoutés. Parce que la situation, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que ça va venir.
Et ça date?
Effectivement. Et nous sommes trop dépendants du Nigeria, comme il l'a dit, par le simple fait que ici, non seulement la quantité du produit raffiné n'est pas... Moi, je dirais que ça ne peut pas suffire. Le fait de dire que le Niger, on a un besoin de 7000 barils jour, ça, c'est depuis 2007. Mais de 2007 à aujourd'hui, quand vous allez prendre... Comme il y a eu plusieurs... industries d'art qui se sont créées. On utilise ça partout aujourd'hui, même dans les activités agricoles, vous allez voir que... Donc vraiment, je pense qu'il faut revoir au niveau national la situation du prix du pétrole national et puis chercher à accroître notre production. Même si on va faire recours à l'ancienne formule, celle d'importation, parce que même le Nigeria, qui est le plus grand producteur du pétrole qui produit plus que nous, il fait recours à l'importation des produits raffinés.
D'accord. Docteur Abdelhab.
Oui, dans ce qu'ils ont dit, on sent la frustration, on sent la désolation, on sent l'impuissance et on sent l'interpellation. Je veux surtout, par rapport à l'interpellation, il y a un d'entre eux qui a dit, bon, c'est un problème de notre pays. Normalement, ça ne doit pas nous concerner. Bon, enfin, en principe, ça nous concerne. Aujourd'hui, le monde est dans un système de toile d'araignée. Je ne parle pas au sens informatique, au sens même réel. Tous les pays sont interdépendants. Et donc, un problème peut surgir au Nigeria et nous toucher. Voici la réalité. Sauf que il faut se dire que... Nous avons un souci au niveau des autorités. Peut-être je suis un peu déconnecté, mais je n'ai pas senti l'intervention des autorités pour au moins apaiser un peu les gens, même s'il n'y a pas de solution concrète, sortir pour la compassion. Parce que la compassion est très importante pour une population majoritairement peu instruite. On a besoin de sortir pour Royo Allah. Nous-mêmes, on est conscients, on est gênés. Ça peut réduire un peu. Ça, on en a besoin. Deuxième chose, par exemple, lors de nos recherches, on s'est rendu compte que l'essence dont on parle, on dit que c'est l'essence du Nigeria, mais vous avez une partie de l'essence du Niger qui fait un quart de cercle qui nous revient. Ce serait pratiquement inconcevable que l'essence du Niger fasse un quart de cercle à partir de certaines frontières, puisque nous avons pris les deux principaux axes, que ce soit l'axe de Maghreb, que ce soit l'axe de Matam jusqu'à Congolan. Il y a des points où on sait très bien que des citernes reviennent, ça passe, c'est l'essence du Niger, ça entre de l'autre côté, ça devient l'essence du Nigeria, ça revient au Niger comme essence du Nigeria. Moi, en tant que sociologue, ça me dérange de parler de frauder, parce que dire que cette essence est fraudée, c'est à la limite. oui. Personne ne peut aujourd'hui concevoir que ça soit appelé, en tout cas du point de vue des sociologues, essence fraudée. Parce que c'est là, ça se vend sur. À chaque 200 mètres à Zender, vous avez. C'est là, on sait très bien de là où ça part, mais malheureusement, quand ça revient, ce qui coûte ici, ça revient, ça devient comme de l'essence étrangère, ça devient moins cher. Un autre élément qu'il faut souligner dans leur intervention, c'est que les conséquences auxquelles on peut s'attendre par la suite, si ça ne s'arrange pas, ça va avoir des conséquences incalculables. Parce que non seulement le tissu économique, mais aussi le tissu social. Parce qu'à Zinder, la vente ambulante, ou disons, la vente de l'essence sur le marché noir, plus qu'une activité économique, ce sont des espaces de sociabilité, des espaces de solidarité, des espaces de convivialité et de compassion. Je ne pense pas qu'il y ait une station à Zinder devant laquelle tu passes et tu dis « Kay, zobomi litre biozante ndao ». Je ne pense pas qu'il y ait cette station ici. Par contre, dans ces vendeurs ou dans ces trucs-là, tu passes seulement que Kay, verse-moi un demi-litre là, je reviens. Tu bats ma salade, tu verses, tu pars, tu déposes ton client, il te paye. Donne-moi un truc là, je vais attendre de revenir. Je ne pense pas que ça se fait au niveau des stations. Donc, il y a cet élément, ça veut dire que on va, soit ça va être cash and carry. Soit tu as les moyens, tu as l'essence, soit tu n'as pas les moyens, tu n'as pas l'essence. Or, avec les rois-rois, ce n'est pas une question de moi, c'est une question de connaissance. Je pense que toutes ces petites voies de solidarité vont s'estomper. Et ça va être vraiment un calvaire. Et le dernier élément, comment se fait-il que jusque-là, nous, c'est vrai, on dit que notre pétrole n'est pas suffisant. Ça ne fait 12 ans à peu près. On est toujours dans cette chérité de pétrole. Des analystes sont en train de dire, entre au moment où on importait tout, et en ce moment précis, lequel même semble être plus favorable aux citoyens lambda. Parce que la question se pose. Quand on était, moi je me rappelle quand j'étais venu à Zinder avant Soraz, mais l'essence n'était pas encore plus chère qu'aujourd'hui, même à la station. Donc je ne sais pas, peut-être des spécialistes seraient à mesure d'expliquer ces choses-là. C'est quand on produit du plat chez vous que vous devenez encore plus affamé. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est parce que pour le moment, un, les femmes que ces gens-là ont passé leur temps à accuser, et c'est vrai, c'est les femmes qui font les trois quarts des mouvements dans la ville. Et vous avez entendu, tous ont parlé des femmes, personne n'a indexé un homme. C'est elles qui font les grands mouvements. Mais elles ne sont pas sensibles à cette baisse, cette hausse-là. Ça, ce n'est pas leur problème.
Docteur, je continue avec vous. La fraude constitue depuis toujours un obstacle au développement de notre pays. Peut-on dire que cette décision vient à point nommé et peut-on s'attendre à la consommation du carburant nigérien?
D'abord, il faut le dire, lui-même, Ahmed Tinubu, n'a pas dit que c'est pour supprimer la fraude totalement. Parce qu'il a dit que ça profite à des groupuscules d'individus. Mais la fraude est aussi vieille que l'humanité. Dans toutes les sociétés du monde, il y a des secteurs de fraude qui existent et qu'on ne peut pas facilement éliminer. Quand vous prenez le cas précis de la fraude ici, mais 1000 forums ont été organisés par rapport à ça. 1000 débats ont été faits par rapport à ça. La fraude, est-ce que l'État même veut supprimer carrément la fraude? Si oui, donc il a de tout temps raté les voies pour supprimer cette fraude-là. Donc ça, c'est un. Deuxième chose, est-ce que nous allons consommer le carburant nigérien? Oui, on a toujours rêvé de consommer le carburant nigérien. Mais le carburant nigérien ne nous est pas accessible. Ce n'est pas accessible à la bourse. Vous voyez, quelqu'un d'entre eux a dit « Les bourses n'ont connu aucune hausse ». Il a raison. Aujourd'hui, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'un kabou-kabou part dire à un pompiste « Donne-moi, verse-moi un litre à 540 ». Non. Il a toujours payé 250, 275. Ça, là, c'est une phase transitoire pour lui. Dans la tête des consommateurs, ce que Baba vient de dire, les transporteurs, c'est par contrainte qu'ils prennent l'essence à la station. Et ils attendent un dénouement pour retourner à la tradition. C'est quoi la tradition? La consommation de l'essence du marché noir. Sauf si l'État veut qu'on consomme soit il baisse totalement le prix pour revenir à 300. Mais combien de fois ici on a chanté ce truc-là? Il baisse totalement le prix. Soit s'il sait qu'il ne peut pas baisser le prix, d'abord, tous les produits manufacturés qui nous viennent, que l'État se donne le devoir de les acheminer, que les routes soient belles et bien, très bien arrangées, et que les motos même, les engins, soient rendus plus accessibles. Parce que c'est un concours de circonstances qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas consommer tout le pétrole, enfin, les carburants nigériens. L'accès même à l'essence, on n'a pas l'accès. Baba vient de dire que c'est seulement à Zinder que vous avez quelques stations, non? Vous prenez dans les autres, il y a des stations. Alors, il n'y a pas de moto? Il n'y a pas de tissu. Mais aujourd'hui,
Le monde même est accroché à certains trucs tels que l'électricité et le pétrole. Le monde est accroché à ces deux choses. Vous ne pouvez pas vous développer sans ces deux choses. Puisque la Chine, à partir de son capitalisme est non exprimé, a répandu les motos, les engins sur toute la terre, mais il leur faut de l'essence. L'État n'a pas créé les conditions. C'est comme les parcelles que l'État donne partout. Ils ont donné des parcelles partout, mais ce n'est pas viable. C'est la même chose. La Chine a donné des motos à tout le monde, mais il n'y a pas d'essence. Donc il faut qu'on crée des voies alternatives pour s'alimenter. Et ce que vous avez appelé la fraude, pour le moment, c'est la seule voie alternative. Pour quelqu'un qui est dans un village là-bas de Angoul-Arné, quelqu'un qui est dans un village, je ne sais pas, de Majankaré, où est-ce qu'il va trouver une station? Il ne faut pas qu'on se voile la face. La réalité est têtue. On veut consommer l'essence nigérienne. Pour le moment, on n'est pas prêt pour deux choses. Un, l'accessibilité. L'accessibilité physique. Deux, l'accessibilité financière.
Sadat, dans quelles conditions cette mesure peut-elle amener la fin de la fraude des hydrocarbures tant souhaitée par les autorités nigériennes?
Bon, moi je voudrais d'abord revenir sur l'impact de la fraude sur l'économie nationale. Une fraude impacte l'économie nationale lorsque les produits fraudés entament les produits nationaux. Lorsque l'essence que nous fraudons du Nigeria, est-ce qu'il entraîne une mévente au niveau de la SONIDEP? Mais on va voir que non, tout l'essence qui est fraudée par les lois, en réalité, il n'empêche pas à la SONIDEP de vendre son produit. Ça veut dire que la SONIDEP ne perd pas. Donc l'État du Niger ne perd rien dans sa production pétrolière. Donc moi, au contraire, je pense même que cette fraude-là, c'est une fraude positive. C'est une fraude qui arrange notre économie parce que non seulement on arrive à ravitailler les pays à des produits et stratégiques, parce que l'essence c'est des produits stratégiques, les produits pétroliers c'est stratégique qui entrent dans le cadre de la production industrielle. Donc tout ce qu'on fait ici en termes de production, que ce soit l'électricité, que ce soit même les petites et moyennes entreprises, beaucoup utilisent, n'est-ce pas, des produits pétroliers fraudés en réalité pour fonctionner. Donc ça ne fait pas entorse à l'économie nationale. Au contraire, ça donne des avantages parce que ça donne de l'emploi à un nombre important de citoyens qui sont liés à cette fraude-là, notamment les transporteurs. Beaucoup de nos transporteurs qui font les transports interurbains le consomment. Et les gens qui font cabou dans la ville et les El Kourkoura qui contribuent aussi à l'économie. Aujourd'hui, beaucoup de El Kourkoura, quand ils gagnent leur argent, mais ils investissent au Niger, ils achètent au Niger, ce qui fait à l'État des devises. Et beaucoup payent la scolarité de leurs enfants avec l'argent de la fraude. Et que lorsque ça va arrêter, vous allez voir aussi les conséquences économiques que ça va produire. Beaucoup de nos unités, des petites unités de production, sont aujourd'hui aux arrêts parce qu'elles ne peuvent pas continuer à utiliser. D'autres, c'est parce que tout simplement, ils ne peuvent pas utiliser l'électricité qui n'est pas disponible partout, ou même la Nigelec utilise des produits, comment on appelle ça, pétroliers pour produire de l'énergie. Puisque moi, j'ai même posé la question à certains responsables de la SONIDEP, et ils m'ont confirmé qu'effectivement, cette fraude de Kabou n'entame à rien la production de la SONIDEP. Ce qui entame, au contraire, l'économie nationale, c'est les cas que le docteur avait évoqué, les cas de reversement. Aujourd'hui, toutes ces stations-là que vous voyez, vous allez voir beaucoup de stations qui entourent la ville des Andes, mais vous n'allez jamais voir un consommateur. La SONIDEP ne vend pas à n'importe qui. Elle ne vend qu'à des personnes qui sont agréées, donc qui disposent de stations. Voilà pourquoi les gens font des stations. C'est pour accéder aux produits de la SORAS à un prix commercial. Parce que eux, ils achètent hors taxe. Et vous allez voir que c'est la chaîne, leur structure de prix là, c'est les consommateurs qui payent l'essentiel. Hein. Parce que c'est lui qui va payer la marge bénéficiaire de station, c'est lui qui va payer la marge bénéficiaire de la SONIDEP, c'est lui qui va payer les taxes liées à ça, c'est lui qui va payer même les transports. C'est pourquoi la structure de prix a atteint ce seuil-là. Donc c'est les consommateurs qui doivent endosser tout. Et quand ils vont là-bas, ils vont l'avoir à un prix
très très bas qui ne dépasse pas, ça n'atteint pas 200 francs. Et puis quand tu vas prendre ça, tu vas vers le Nigeria, tu ramènes, tu revends ça à 250 déjà, tu vois, tu as eu. Il faut d'abord mettre fin à ça, à cette pratique frauduleuse qui est interne. Mais voilà la vraie fraude. C'est le produit national qu'il faut combattre d'abord pour mettre fin à la fraude des hydrocarbures, pour protéger les produits nationaux, parce que c'est ça l'objet. Mais encore, lorsqu'on se rend compte que moi, je ne suis pas d'accord que 20 000 barils peuvent suffire la consommation du Niger. Lorsqu'on a fait l'étude, on n'a pas fait une étude exhaustive de tous les consommateurs, mais on a seulement fait l'étude sur la base de ceux qui consomment à la station. Dans les cas contraires où les 20 000 barils ne peuvent pas suffire notre consommation nationale. Mais il faut encore recourir à l'importation ou à la fraude. Donc vraiment, ce n'est pas une mesure qui sera de nature, à mon avis, à lutter contre la fraude des hydrocarbures. Pour lutter contre la fraude des hydrocarbures efficacement, il faut qu'au Niger, que nous adoptions un prix qui est concurrentiel. Donc c'est des spéculations qui sont faites par un réseau, par un lobby, parce que c'est des lobbies. Donc c'est ce qui provoque. Donc pour mieux lutter contre la fraude, ce n'est pas à d'autres pays de les faire, c'est ici même chez nous. Donc revoir la structure du prix de notre pétrole, les rendre le plus accessible, comme l'a dit docteur, du point de vue financier, mais aussi les rendre accessibles du point de vue physique, c'est-à-dire rendre les produits disponibles. Aujourd'hui, quand tu vas à Balbeji, tu n'auras pas de pétrole. Quand tu vas à Damagaram Takaya, bon, attends, j'ai vu quelques stations qui sont en train de pousser un magaria. Mais en dehors de ça, ici à Taketa, tu n'as pas de station. Tu vas encore un peu plus loin dans nos communes rurales. Et le Niger, l'essentiel de la population du Niger se trouve en milieu rural. Et le Niger, aujourd'hui, il va commencer à exporter du brut. Mais on doit faire en sorte que ces brutes-là que nous avons, l'on vendre et qu'on les puisse transformer ça en des produits raffinés avec d'autres partenaires, parce que ça, c'est ce que le Nigeria fait. Lui, il exporte du brut, mais il importe du raffiné. Donc, pour un peu améliorer la quantité, parce que tant qu'il n'y a pas une quantité suffisante de produits raffinés, on ne peut pas les rendre disponibles et on ne peut pas diminuer les prix. Et moi, je n'en veux pas au président du Nigeria qui dit qu'il l'a fait pour que ça ne profite pas à certains pays comme le Niger. Vous vous souvenez avec les gasoils, ce que l'État du Niger a fait. À un moment donné, nous avons un prix concurrentiel sur les gasoils ici au Niger. Ce qui a fait qu'il attire les consommateurs extérieurs pour venir ici. Mais pour combattre ça, qu'est-ce que notre gouvernement a fait? Il a augmenté les prix du gasoil pour l'aligner, n'est-ce pas, au prix des autres pays qui viennent ici acheter chez nous. Donc, même eux, s'ils réagissent de cette façon, moi je pense, alors que ça, penser comme ça, moi je pense que c'est une contradiction avec ce que les gens prennent comme Zélecaf. Alors que voilà, entre nos voisins, même on n'entretient pas de bonnes relations commerciales. Donc vraiment, je pense que c'est paradoxal.
Monsieur Baba, la même question, est-ce que cette mesure prise par le président nigérien peut amener la fin de la fraude ici au Niger?
La suppression de la subvention par l'État nigérien, ça ne fait pas empêcher la fraude. Si l'État réellement, l'État nigérien, si réellement veut empêcher la fraude, la solution est simple. Déjà, ça date là-dessus. Il faut baisser le prix du carburant au Niger. Personne ne va ailleurs chercher du carburant. Même si tu vas, tu le prends, personne ne va payer. Secondo, il faut vraiment qu'il y ait des stations dans nos différentes. Et ces stations-là, qu'ils puissent avoir du carburant à chaque mois où les gens se feront sentir. C'est que maintenant, si vous prenez le carburant qui fait des métros pour revenir au Niger, c'est ce même carburant qu'on nous paye. Raison pour laquelle la Sonnep ne peut pas sentir qu'elle est en train de perdre. Nous sentons cette situation dans les différents, dans nos quatre différentes régions, à savoir Tawa, Maradi, Zander et Difa. Et parmi toutes les quatre régions, si vous partez dans les différentes de ce oui, mais seulement, nous ne sentons pas parce que nous dépendons totalement du carburant du Nigeria. Totalement.
Docteur, nous avons senti une certaine contradiction à ce niveau bien précis. On a tout comme l'impression que les gens préfèrent aller acheter du carburant de la rue que d'aller à la station, malgré que le carburant à la station soit moins cher.
Oui, parce que la question de l'accessibilité est multidimensionnelle. Au niveau de la station, d'abord, vous avez des prix fixes. Et vous avez ainsi à partir duquel c'est difficile que la pompe descende. Or, au niveau du marché noir, on peut vous mettre tout ce que vous voulez. 2000 litres même, on peut vous donner. Et comme vous avez annoncé ce départ, hier, moi, j'ai fait un petit tour dans la ville. À quelqu'un, j'ai dit, bon, tu peux me vendre demi et quart. Il dit, bon, demi, oui, quart. Bon, je n'ai pas vraiment le truc pour diviser. S'il avait la mesure, il allait le faire. Et ce que j'avais dit là, je reviens là-dessus. Quelqu'un de passage, parce que c'est devenu, il y a des familiarités qui sont tissées. Tu préfères aller là où tu veux, et le temps qu'ils te mettent là, vous causez une demi-minute, deux minutes, vous parlez de certaines choses, voilà, et tu continues. Tu acceptes mieux ça que d'aller au niveau de la station où c'est vraiment le contact. C'est acheteur-vendeur. Mais ici, c'est de la famille. Ce n'est pas pour rien que les gens acceptent d'aller au niveau de... Et il y a ces vendeurs-là. L'autre accessibilité, c'est la géographie. Dans toutes les ruelles, tu en as. Et les motos tricycles, les cabos, souvent, ils n'ont pas assez de moyens. Tu prends un des 1000 litres pour aller à Birni. Mais à partir de, ça peut finir juste à côté de Dolé. Un niveau où il n'y a pas de station. Donc, tu seras obligé, tu regardes dans le coin, tu demandes où est-ce qu'il y a, on dit, bon, voilà, dans un coin, il faut m'aller dans telle maison. Tu pars, tu prends.
Même un plus, là.
24 heures sur 24.
Un plus. Tout à l'heure, le docteur avait un peu parlé de s'il y a le moyen ou pas, tu peux apprendre ton carburant après avoir vendu et revenir. Parce que nous, maintenant, on va dans les vendeurs du carburant dans les gares ou bien comme ça. On va en prendre du carburant, on prend 50, 100 litres, on va attendre, revient, on le paye.
Sans rien donner. Est-ce que ça se fait à la station? Non. Donc, pour ce que les Sadat et Babin ont dit par rapport à la station, je suis sûr que l'État nigérien sera incapable d'implanter des stations partout. Mais il sera capable de faire des entrepôts officiels. Parce que la station nécessite certaines exigences matérielles, etc., certains dispositifs. Mais il peut faire des entrepôts dans un rayon de chaque 5 km. Faire des entrepôts officiels. À un moment donné, je me rappelle dans nos recherches là, on a vu que même au Niger, à un moment donné, il y avait ces façons de faire. Maintenant, quand vous prenez Takeda, vous venez de dire que Takeda, il n'y a pas de station. Et vous regardez à Zender, c'est le plus grand carrefour de transport. Partout où tu vas passer, dans les quatre coins de la zone, Takeda constitue un rond-point. Mais il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas de station. Donc, ils peuvent faire des entrepôts. Et eux-mêmes. Parce qu'on sait bien que nous l'avons vu ici. C'est l'essence du Niger qui part au Niger qui fait un quart de...
Peut-on craindre le chômage des jeunes? Car Dr Issouf Issa a dit dans un de ses articles que cette activité frauduleuse est un palliatif pour l'insertion socio-économique d'une jeunesse nombreuse et désœuvrée à Zender.
Mais 3 jeunes sur 4 ici à Zender a pour activité quelque chose qui est lié au Pérou Pétou. Ou c'est la vente elle-même, ou c'est la vente ici, sur place, ou c'est la fraude, ou c'est Adeï d'État, ou c'est Kabu Kabu, ou c'est 19, ou c'est les trucs de Piawata, El Kurkura. Quand on suspend cela, on n'a même pas besoin de poser cette question. Et même au moment où nous sommes en train de parler, beaucoup sont au ralenti. Pas, c'est pas encore du chômage, mais on est au ralenti. Les Kamamils, là, parce qu'il y en a qui font du Kamamils. Le monsieur ou la Hajia qui a payé son aide d'État. Mais elle attend chaque soir que tu amènes. Mais tu n'amènes pas, mais elle garde son truc. Donc c'est le chômage, là, ça c'est une évidence. Ça c'est vraiment une évidence. Et le chômage même n'est pas, c'est pas lui qui a un problème en soi. C'est les répercussions du chômage.
Sadat, dernière question. Comment le citoyen à faible revenu peut-il supporter le coût? Et quelle issue face aux conséquences que nous venons d'évoquer tout à l'heure?
Je pense que c'est une situation qui dépasse le niveau d'un simple citoyen. Peut-être la seule solution que le citoyen a, c'est d'aller consommer comme ça. Mais là aussi, il sera confronté au moyen, au problème des moyens. Parce que est-ce qu'il peut avoir les moyens de toujours supporter cette situation-là? Ça, c'est un. Maintenant, la seule solution qui s'offre à nous, c'est de revenir à la lutte citoyenne. Il faut que les citoyens nigériens s'élèvent. Ici, les produits, la pétrolière, c'est les produits du Niger. Et la Constitution du Niger a été claire par rapport au fait que ces produits, c'est notre produit. Ça n'appartient pas à quelqu'un, ça n'appartient pas à un clan. Ce n'est pas à quelqu'un de décider de comment on va faire. Nous sommes convaincus que dans cette affaire du pétrole, il y a de l'arnaque, il y a des fraudes. La Constitution a dit, quand on va gagner l'argent de pétrole, comment on doit le dépenser. Mais on doit regarder, est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire? Est-ce que le fait que le Niger soit producteur de pétrole, ça a changé la situation de l'école nigérienne? Les choses sont en train de s'aggraver. Ça n'a pas changé la situation de santé. dans ces pays-là. Ça n'a pas entraîné un développement de l'agriculture et de l'élevage dans ces pays-là. Alors que c'est dans ça qu'on a dit d'investir, d'injecter, n'est-ce pas, les recettes ici de ces activités-là. Mais on ne les fait pas. La société civile a fait ça, ce qu'elle peut faire. On a arrêté des gens à cause du prix du pétrole, les Gamache et Ensambou, qui est de votre syndicat. Mais il n'a pas été soutenu par les autres syndicats. Il était le seul pratiquement à porter cette lutte-là au sein des syndicats. Et moi, je suis convaincu qu'aucune lutte sociale ne peut aboutir sans le soutien des syndicats.
Docteur Abdelwahab, comment mieux tirer profit de cette décision du président nigérien ici au Niger et que peuvent faire les autorités de notre pays face à cette situation?
D'abord, ça doit être une leçon pour tous les Nigériens en général et les autorités en particulier. Lorsque vous êtes dans la dépendance, vous ne pouvez pas prétendre au développement. Et quand on dépend de quelqu'un, quel que soit le degré d'amitié, un jour il peut fermer les yeux et vous créer des problèmes. C'est ce qui nous est arrivé. Ça là, ça doit nous interpeller non seulement pour le carburant, mais aussi pour l'électricité. Pour le carburant, nous sommes en train de voir que tout peut arriver. Ça veut dire, mais Tinubu le sait. D'abord, Tinubu, du point de vue sociologique, c'est un Yoruba. Donc ça veut dire que ce sont les groupes ethno-linguistiques les plus versés dans les activités économiques. Deuxième chose, c'est un multimillionnaire, c'est un commerçant. Il sait très bien. Et ce monsieur-là sait bien, et tout le Nigeria sait bien, que presque 4 régions sur les 8 du Niger dépendent du pétrole du Nigeria. Pourtant, ils ont fermé les yeux pour dire non. Quand on a dit des pays comme qui? Non, la phrase aurait été plus courte, plus simple, plus compliquée de dire qu'il faut qu'on empêche au Niger. C'est ça, aurait été. Comment nous pouvons supporter? Dans tous les cas, vous voyez, les gens ont commencé à créer des voies alternatives. Même là-bas au Niger, on dit que le prix du vélo a commencé à prendre. Oui, oui. Donc, nous aussi, ici, les gens, d'abord, c'est le prix du téléphone qui va augmenter. Bon, c'est le téléphone qui va faire d'abord la pluie et le beau temps. Parce qu'on est obligé de se contenter des appels. On ne peut pas trop mouvoir. Seulement, Dieu merci que c'est les vacances.
C'est ça.
Voilà, si cette mesure était venue en pleine année scolaire, ce sont les personnes en veste, en cravate, là. C'est elles qui vont commencer à souffrir. C'est-à-dire ceux-là qui déposent leurs enfants ou qui font déposer. Maintenant, c'est bon. C'est les vacances.
D'accord.
C'est moins compliqué.
Merci, docteur. Donc, nous en venons à la fin de ce débat. Nous retenons que la mesure a des conséquences sociales. Le coût de la vie a déjà connu une certaine hausse. Le carburant nigérien est inaccessible. La fraude des hydrocarbures est nécessaire pour alimenter des zones qui ne disposent pas de stations-service. Elle est dans une certaine mesure, elle donne de l'emploi, donc ce qui a une contribution certes dans l'économie nationale. Le Niger est obligé de recourir à l'importation pour rendre disponible le carburant. Comme solution à la fraude, l'État doit mettre en place des dépôts officiels. La lutte citoyenne s'impose pour amener les autorités à réduire le prix des hydrocarbures afin d'alléger le coût de la vie aux citoyens lambda. Nous étions donc avec Dr Abdelwahab Soumana, socio-anthropologue, enseignant chercheur à l'université André Sarupu de Zender, Monsieur Babaye Danyaro, président du syndicat des transporteurs Adelti de Zender, et Sadat Iliad Amalam, acteur de la société civile, défenseur des droits des consommateurs. Merci et au revoir.